France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2001, s'arrêtait l'émission de Bernard Pivot, Bouillon de Culture, qui, depuis 1991, avait pris le relais de son légendaire Apostrophe. La disparition de cette émission, qui marquait la fin d'un temps pour les émissions littéraires sur le petit écran, était pour Jean-Noël Jeannet l'occasion de consacrer un numéro de Concordance des temps à l'histoire des émissions littéraires à la télévision et à la radio. En compagnie de Yannick Dehaye, historien de l'audiovisuel et du cinéma, de Lecture pour tous à Apostrophe, en passant par Le Masque et la Plume, on s'interrogeait sur l'évolution de ce genre d'émissions au fil des années, sur leur influence sur les livres, les auteurs, sur le public et la lecture, sur les liaisons de tout temps possiblement dangereuses des médias avec le monde de l'édition. Concordance des temps, avant Bouillon de Culture, les émissions littéraires à la radio et à la télévision, une émission diffusée la première fois le 29 septembre 2001.
Concordance des temps. Jean-Noël Jeannet. Bonjour, j'ai relu hier soir le numéro d'hommage d'écrivain que le journal du dimanche avait rassemblé au printemps dernier pour célébrer en forme de polyphonie Bernard Pivot, au moment où celui-ci s'apprêtait à quitter la télévision. Ses adieux constituèrent presque un événement national, honorant, célébrant, gratifiant 30 ans de bons et loyaux services rendus à la culture. Et il est vrai que, ce dont témoigne cette gerbe impressionnante, Apostrophe puis Bouillon de Culture ont porté, avec une efficacité exceptionnelle, la diffusion des livres et de la lecture dans notre pays. Mais naturellement, Bernard Pivot n'a pas surgi du néant. Et il m'a semblé que le moment était propice pour resituer son apport dans la longue durée d'une histoire heurtée, multiforme, contrastée, celle des relations qui se sont instaurées entre la radio et la télévision d'un côté et les livres de l'autre. Une bonne manière de poser la question, c'est probablement de se demander si l'audiovisuel est le maître ou le serviteur de la culture. Les pessimistes nous diront qu'il le fait passer à la moulinette d'une séduction réductrice, dans l'obsession de l'audience maximale. Et les optimistes, dont j'avoue que je suis, rétorqueront que l'audiovisuel, qui après tout n'est qu'un flux, ne peut que se nourrir du stock des créations qui lui sont extérieures et que du coup, quand il le fait bien, ce qui peut arriver, il assure forcément une audience inespérée à la littérature sous toutes ses couleurs. Pour nous faire une religion, librement, en prenant du recul, je vais faire appel à la compétence de Yannick Dehaye, historien de l'audiovisuel et du cinéma, qui va nous aider à comprendre la genèse de ces magazines, leur ressort, leurs efficacités et aussi leurs faillites.
J'ai eu envie de faire en m'amusant une petite chanson à propos d'un monsieur qui vient souvent dans notre maison. Il s'agit pas du facteur, du plombier, d'un représentant casse-pied. Il rend intelligent même les plus sots, c'est Bernard Pivot. Un homme illustre disait, des Français, ce sont tous des veaux. On a depuis fait de nombreux essais pour changer de peau. Mais c'est pas avec le loto ou Dallas que nos cellules se décrassent. Un homme est venu rehausser le niveau, c'est Bernard Pivot. La ménagère qui n'avait lu avant que la recette du cake a pris bouleversé que Chateaubriand n'était pas qu'un steak. Son époux, n'ayant lu que des cantates sur les boîtes de camembert, se mit soudain à citer Roland Barthes, Nietzsche et la Bruyère. Le vendredi, les Français rentrent chez eux, bâclant leur dîner. quelques sardines, un yaourt ou des œufs devant la télé, où la nourriture audiovisuelle sera d'abord spirituelle, car un seul homme à ce moment prévaut, c'est Bernard Pivot. Car le soir de diffusion d'apostrophe, plus un chat dehors. Pour les prolos, commerçants, philosophes, l'émission d'abord. Et même ceux qui font l'amour sur la table arrêtent leurs ébats coupables. Ils prennent le pied en regardant le show de Bernard Pivot. On se souvient du valeureux Hercule et de ses travaux. Roland mourut ignorant le recul au col de Roncevaux. De Charlemagne qui s'est entêté à nous faire faire des dictées. On a aujourd'hui le petit nouveau, c'est Bernard Pivot. Car c'est un arc de faire jacter un auteur timide, de couper celui qui veut pas s'arrêter ou qui prend le bide. Est-ce que le talent qui émoustille son cerveau vient du Beaujolais nouveau? Je laisse encore une fois le dernier mot à Bernard Pivot.
Vous avez reconnu Pierre Perret qui célébrait en 1986 Bernard Pivot. Yannick Dehé, bonjour.
Bonjour.
Je crois qu'avec cette chanson, nous sommes placés tout de suite au cœur de la réalité et de la mythologie de Bernard Pivot comme transmetteur de culture, comme intercesseur pour les livres, pour l'opinion française.
Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui ont la chance de se voir chanter de leur vivant.
Pas leur mort non plus.
Et Pierre Perret montre bien dans sa chanson à la fois la compétence, la popularité de Bernard Pivot et aussi son côté populaire, lyonnais, terrien,
Beaujolais.
Amateur de Beaujolais, voilà.
Et sa personnalité est là, dans sa réalité et dans son image. Alors nous allons considérer ces émissions littéraires d'un point de vue historique. Et il serait intéressant, me semble-t-il, de commencer par une réflexion sur la quête d'une formule. Parce que depuis qu'il y a des émissions à la radio et à la télévision, au fond, on a tâtonné pour savoir comment faire.
Effectivement, on cherche toujours la formule idéale parce qu'il est très compliqué d'arriver à faire partager le goût des livres en quelques minutes ou en une heure. Et donc, on a toujours hésité entre plusieurs formes. Il y a le dispositif très intimiste de l'entretien avec un auteur pendant lequel on prend le temps longuement de le laisser développer sa pensée. Il y a la forme du débat où au contraire, on cherche à regrouper des personnalités antagonistes, à obtenir des débats, voire des combats. Il y a l'émission Patchwork, où on essaye de rassembler des témoignages, des reportages. Il y a l'émission Salon, où l'on essaye de mélanger un petit peu tout cela. Donc on a toujours cherché, et aujourd'hui encore, les différentes émissions tâtonnent entre ces différentes formes.
On a l'impression que, d'ailleurs, ces tâtonnements conduisent souvent du compliqué au simple, et qu'on redécouvre en particulier presque toujours l'intérêt de l'entretien intimiste. Je voudrais, Yannick Dehé, vous faire entendre un document qui concerne Lecture pour tous. Cette émission qui a beaucoup compté à la télévision à l'époque de la chaîne unique, entre 1953 et 1968, enfin la deuxième chaîne n'est arrivée qu'en 64. Lecture pour tous de Pierre Dumayet, Max-Paul Fouchet, Nicole Védresse et Pierre Desgroupes. Voici un extrait d'un commentaire de Dumayet et Desgroupes en 1954.
Pierre Dumayet présente à partir de cette semaine, chaque vendredi à la télévision, avec Pierre Desgroupes et Max-Paul Fouché, une émission « Avez-vous vu ?» ou « Les lectures pour tous ». Je suppose, Pierre Dumayet, que c'est une émission littéraire.
Ce n'est pas exactement une émission littéraire, c'est une émission qui voudrait rendre compte de l'actualité littéraire.
Et Pierre Desgroupes, comment couvrirez-vous cette actualité littéraire? C'est une question de choix.
Bien, c'est-à-dire que, oui, on la couvre un peu comme on peut, si je puis dire. Le problème est celui-ci. Il s'agit de trouver pour chaque livre présenté ou exposé dans l'émission une méthode d'exposition qui tienne compte à la fois du livre lui-même et aussi des caractéristiques propres à la télévision. C'est ainsi que, vendredi dernier, lors de la première émission, pour prendre deux exemples, il y avait comme livre le dernier roman de Nicole Védresse, Les Cordes Rouges d'une part, et d'autre part le livre de Raymond Loewy, le designer américain, qui s'appelle La laideur se vend mal. Bien, pour Védresse, nous avons pensé qu'il ne fallait pas simplement se contenter d'interviewer Nicole Védresse comme on le fait ou comme on l'a déjà fait à la radio, mais que nous pouvions jouer sur le côté visuel, visionnaire même de son livre. Et par exemple, dans le cas de Védrès, nous avons pensé que nous avons trouvé que des dessins de Victor Hugo pouvaient parfaitement illustrer les moments principaux du livre de Védrès. Et le téléspectateur a vu non seulement Nicole Védrès répondre à des questions, mais aussi a vu des photographies des dessins de Hugo illustrant et exposant pour lui le déroulement du livre de Védrès.
Un autre exemple, Pierre Dumayet ?
Eh bien, un récit de naufrage, un livre de récits de naufrage nous a donné l'occasion d'interviewer une naufragée morte en 1826, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est une interview imaginaire, et l'interview imaginaire est une de ces méthodes que nous sommes obligés de pratiquer.
Mais je suppose du reste que votre émission va être constamment en mouvement et que pour chaque livre, vous imaginerez une présentation spéciale.
On voudrait bien, on va essayer en tout cas. Je pense qu'il y a autant de méthodes possibles que de livres, il suffit de les trouver.
Vous n'avez pas encore idée de ce que vous pourrez penser et de comment vous présenterez certains bouquins qui vont sortir.
Il y a aussi une idée excellente qui consiste à interviewer l'auteur. C'est assez simple, mais c'est une idée qui a fait ses preuves.
Une idée qui a fait ses preuves, comme le dit Pierre Dumayet, c'est l'idée centrale de Lecture pour tous. Les contemporains se rappellent d'ailleurs essentiellement ces dialogues entre des groupes et Dumayet et celui ou celle qu'ils invitaient.
Voilà, très vite, on revient à cette formule. Après, toutefois, avoir inséré des introductions par Max-Paul Fouché, qui souvent se lancent dans une longue envolée qui peut atteindre 10 ou 15 minutes et qui resteront aussi gravées dans la mémoire des téléspectateurs.
Concernant souvent la littérature étrangère, qu'on ne peut pas avoir les auteurs, alors on parle de leurs livres.
Voilà. Pierre Dumayet, effectivement, est resté dans les mémoires comme un intervieweur à la fois sagace, qui sait attendre de son interlocuteur qu'il déroule sa pensée, qui ne le brusque pas et qui accepte tout à fait d'avoir des longues périodes de silence.
Les silences de Dumayet.
Il en est résulté des interviews tout à fait inoubliables, comme par exemple avec Céline, qui est un document tout à fait exceptionnel.
C'est un point d'ailleurs où on peut dire, certains n'ont pas manqué de le faire, que la télévision n'était que de la radio filmée, parce que la radio est évidemment le lieu idéal pour ces entretiens. C'est aussi le temps, ces années 50, où la radio d'État, la radio publique, donne toutes ses lettres de noblesse à ces dialogues entre par exemple Amrouche ou Mallet d'un côté, Gide, Claudel, Mauriac, Giono de l'autre.
Mais effectivement, Dumayet et une bonne partie de l'équipe sont des journalistes qui ont commencé par la radio et par faire des émissions littéraires à la radio. Donc il est tout à fait naturel que le format de cette émission s'en soit ait été influencé par ses débuts.
C'est un ton d'intimité qui au fond, le spectateur ou l'auditeur a le sentiment d'avoir le privilège de dialoguer par le truchement de celui qui interroge avec l'auteur.
J'avais été très malade et il y avait longtemps que je n'avais pas écrit.
Malade de quoi ?
Je ne pouvais plus du tout boire d'alcool. J'étais malade en raison de ça, d'ailleurs. C'était la première fois que j'écrivais sans alcool, du tout.
C'était très différent ?
C'était très dur, oui.
Très dur ?
Très dur.
Vous vous sentiez autre ?
Oui, enfin, c'est toujours dur d'écrire, mais là, j'avais plus peur, bien plus peur que d'habitude.
Vous aviez peur d'écrire mal ?
J'avais peur d'écrire n'importe quoi.
C'était Marguerite Duras, à Lecture pour tous, interrogée par Pierre Dumayet. Il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez Yannick Dehé, qu'on est là, on s'approche de l'auteur, mais sans se sentir voyeur.
Oui, et on voit tout le talent qu'il faut à Pierre Dumayet pour arriver à instaurer un climat de confiance, à faire parler l'auteur sans pour autant lui faire dire ce qui serait indécent qu'il dise. Et donc, il faut arriver à créer cette ambiance feutrée et presque faire oublier à l'auteur qu'il est en train de parler à des millions de téléspectateurs.
Alors, à l'autre extrémité de l'éventail des diverses émissions, il y a le débat, il y a l'organisation systématique des controverses avec l'inattendu, avec tout le ragoût des oppositions, parfois caricaturales. Et on pense tout de suite au Masque et la Plume, la grande émission qui débute sur Paris Inter en octobre 57, mais qui existait depuis 1954 sur Paris 4. fondée par Michel Pollack et François-Régis Bastide.
Oui, Le Masque et la Plume, effectivement, reste encore aujourd'hui comme une des émissions de confrontation les plus célèbres et les plus populaires. Michel Pollack et François-Régis Bastide ont instauré un dispositif qui n'a pas beaucoup évolué, même si les critiques ont changé. Et c'est vrai que là, tout est fait pour instaurer le débat le plus vif, avec parfois des rôles qui se dessinent. C'est-à-dire que il suffit qu'un critique soutienne un livre pour que l'autre critique immédiatement décide de l'attaquer. Donc il y a à la fois ce débat, il y a aussi une forme de jeu et de complicité qui s'instaure entre les participants.
Paris Inter présente Le Masque et la Plume, un magazine public de François-Régis Bastide et Michel Pollack. Aujourd'hui, littérature, avec le concours de Nicole Vedres, Alain Bosquet, Marcel Moussy, Robert Canters, Maurice Jacquemont, Michel Herbeau, Muriel Chanet, Denis Manuel et le guitariste Ramon Cueto. Collaboration artistique, Roger Bouillot. C'est une émission hebdomadaire enregistrée un samedi sur deux, salle de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, Paris 6e, et présentée par ses auteurs, François-Régis Bastide et Michel Pollack.
Et avant l'émission, nous avons recueilli les petits papiers sur les livres de la semaine, je ne dis même plus du mois, puisque nous revenons maintenant beaucoup plus souvent sur l'antenne.
Mais il y a des bonnes questions cette fois-ci, on regrette
toujours,
pas...
Toujours, le chemin temps, des hein. écoliers de Juliette Cosals, rue du Havre de Paul Guimard. On en reparlera, il y aura le prix intérieur.
Vous voulez, je suis l'auditeur.
Le chien...
Merci. C'est l'éditeur qui parle.
On a reconnu en particulier les voix de Bastide et de Pollack. Yannick Dehé, c'est l'atmosphère vraiment du Masque et la Plume dès les débuts qui se crée.
Oui, en même temps, ce qu'on sent bien là, c'est la complicité. Il faut aussi se souvenir des débats, des affrontements parfois vifs où justement les participants se piquent de ces tripés autour d'ouvrages sur lesquels ils pourraient, hors du studio, tomber assez facilement d'accord.
Et l'auditeur, naturellement, se fait complice de ce jeu-là. Il n'est pas entièrement dupe.
L'auditeur et le spectateur, parce que l'émission est enregistrée en public et on sent dans les réactions du public ces frémissements qui montrent que enfin on arrive à ce que le public attend, à ces affrontements, à ces oppositions ou au contraire à ces petits jeux du chat et la souris entre certains participants. Donc il y a une vraie complicité aussi entre les participants et le public présent dans le studio qui représente l'ensemble des auditeurs.
Et en même temps, il faut observer que c'est une émission de radio. Quand on a essayé pendant un bref moment de la téléviser sur la troisième chaîne, ça a été un échec.
Ça a été un échec parce que je crois que cette forme du débat très controversé, où l'on est amené aussi parfois à être très cruel envers certains livres, ne convient pas à la télévision. Il y a eu tout simplement un tollé des éditeurs qui ont dit qu'il n'était pas possible que la télévision, à qui on demande de promouvoir le livre, se mette à diffuser une émission dans laquelle on dit tant de mal de certains livres. Et donc peut-être que ce qui est tolérable à la radio ne l'est pas à la télévision. Là, il faudrait peut-être s'interroger là-dessus.
Et faire un parallèle éventuellement avec l'évolution des émissions sur le cinéma, qui à la radio reste assez vive et à la télévision sont devenues essentiellement lignifiantes.
D'ailleurs, Le Masque et la Plume lui-même parle à la fois de littérature et de cinéma et de théâtre.
Troisième catégorie d'émissions, troisième forme, ce que vous appeliez le salon littéraire, 18e siècle, avec des caméras. Et ça, c'est au fond Bernard Pivot.
Effectivement, Bernard Pivot est un peu l'archétype de ce salon littéraire qui est une tradition très française. Alors, il avait déjà commencé de manière un petit peu moins bien cadrée avec ouvrez les guillemets au début des années 70, mais entre 75 et 90, apostrophe, incarne vraiment ce salon littéraire français, tant en France d'ailleurs qu'à l'étranger, où il est diffusé dans les alliances françaises ou sur certaines chaînes de télévision comme... sur une chaîne du câble à New York, par exemple. Donc, c'est un vrai archétype. Alors, il y a ce modèle d'un décor unique, de 5 ou 6 invités autour de Bernard Pivot. Et puis, parfois, on tente de s'évader. Une émission consacrée exceptionnellement à un auteur que Bernard Pivot reçoit en tête-à-tête. Ou, parfois,
par
une
exemple,
émission...
Par exemple, Solzhenitsyn,
Cohen...
Marguerite Duras.
Nabokov. Nabokov qui avait accepté de faire l'émission à la seule condition de pouvoir connaître les questions à l'avance et de pouvoir lire ses réponses, et ça ne s'est pas vu puisqu'il avait tout simplement fait installer une plante verte, et donc il dissimulait ses feuilles derrière la plante verte, et donc personne ne s'en est aperçu, et Pivot a eu la grande satisfaction de le recevoir à la fin de sa vie.
Un mot sur la personnalité de Pivot tel qu'il s'affirme. Il vient de la chronique littéraire, il entre au Figaro littéraire en 1958. Il a seulement 32 ans, il est ensuite chroniqueur à Europe 1 et il participe dans ses années 60 à la semaine littéraire sur France Culture. Écoutez-le.
La semaine littéraire, magazine de l'actualité, romans et poésie, une émission de Roger Vrigny. L'actualité littéraire.
Quoi de neuf, Bernard Pivot, cette semaine ?
Eh bien, quelques petites nouvelles. Le prix aujourd'hui décerné par des journalistes politiques est allé à M. Pierre Rouanet pour son essai sur Mendès France au pouvoir, publié chez Lafon. Je vous signale à la Bibliothèque nationale une très jolie exposition consacrée à Madame de Staël. Et puis quoi encore ? Eh bien, cette fameuse semaine de la lecture, organisée par l'association Lire, qui durera jusqu'au 15 mai. Diverses expositions, des concours, des séances de signature doivent inciter les 58%, je dis bien 58% de Français qui n'achètent jamais un livre à faire un petit effort, sinon financier, du moins intellectuel. Rappelons le slogan de la semaine de la lecture, un homme qui lit en vaut deux, et à mon avis, une femme qui lit en vaut bien trois.
Mais je trouve que vous faites preuve ici, Bernard Pivot, de ségrégation sexuelle.
Non, mais pas du tout, je trouve. Oui. C'est une observation que j'ai faite.
Ce qu'on peut observer, une idée à propos des émissions de Bernard Pivot, c'est que très souvent, il part du compliqué pour arriver au simple. Par exemple, ouvrez les guillemets, quand on revoit cette émission, la première qu'il a animée, avec Gilles Lapouge en particulier, au début des années 70, c'est très très compliqué. Il y a des poufs partout, des fauteuils, des personnages qui circulent.
Oui, lui-même circule entre divers groupes d'invités et très vite, il se rend compte que ce n'est pas la bonne formule. Et c'est vrai que Apostrophe sera très vite réussi, justement parce qu'il a bénéficié de cette expérience. Ce que n'ont pas aujourd'hui les animateurs qui débutent une émission, ils n'ont pas la possibilité de tester in vivo leurs idées. Et donc, ils sont obligés d'ajuster quasiment d'une semaine à l'autre les dispositifs en fonction des réactions de la critique et du public.
Il faut d'ailleurs observer qu'après les faux adieux de Pivot à la fin d'Apostrophe, quand il réapparaît avec Bouillon de Culture, de nouveau, il imagine un dispositif très compliqué, parce qu'il veut parler à l'époque du théâtre, du cinéma, et on le voit très très vite revenir vers la simplicité de la forme du salon littéraire.
Oui, il va tout de même conserver cette formule utilisant l'ensemble des médias à sa disposition, le cinéma, le théâtre, les livres, la peinture, pendant 2 ans, car il ne souhaitait pas à l'époque faire concurrence à Bernard Rapp, qui avait pris le créneau qu'il occupait auparavant. Et donc, il se fait plaisir également en organisant des émissions thématiques. Mais au bout de 2 ans, il a à la fois l'impression d'avoir fait un peu le tour du type d'émission qu'il pouvait faire et en même temps d'entrer en concurrence avec d'autres émissions promotionnelles autour du cinéma, autour du théâtre et donc de recevoir les mêmes invités qui viennent dire les mêmes choses. Et donc il se trouve un petit peu forcé, car c'est, dit-il, son emploi. C'est-à-dire que les gens le voient dans cet emploi-là. Il se trouve forcé de revenir à la bonne vieille formule du salon littéraire.
Pour finir avec l'analyse de toutes les formes, il faut quand même dire un mot rapidement de ce qu'on peut appeler le zapping littéraire ou le clip littéraire. Il s'agit en particulier des émissions, par exemple, d'Olivier Barrault, Un livre, un jour, même dans les années 90, il y a vraiment des clips littéraires.
Oui, il y a des clips littéraires à l'initiative, je crois, de Jacques Toubon, qui est alors ministre de la Culture. Gonzague Saint-Brie réalise une série de petits clips littéraires qui sont vraiment réalisés sur le modèle des clips musicaux et que donc on reverra sans doute dans quelques années avec beaucoup de plaisir dans une émission Nostalgie à la télévision.
J'en viens maintenant au centre de notre problématique, au centre du dossier, c'est-à-dire la question de savoir, je la posais en commençant, si l'audiovisuel finalement sert la littérature, sert les livres, ou au contraire leur impose un carcan redoutable. Il est vrai que dans la sociologie de la littérature, du point de vue de la psychologie des auteurs, l'arrivée de ces grandes émissions à succès à la télévision a beaucoup changé de choses. Je lis dans le numéro spécial du journal du dimanche de mars 2001, que j'évoquais en commençant, je lis cet extrait de l'éditorial introductif de Jean d'Ormesson sous le titre « Un héros ahuté de notre temps ». Je lis ces phrases. « Si vous écrivez pour vous-même, pour vos enfants, pour votre famille ou pour régler vos comptes avec Dieu, vous n'avez pas besoin de la télévision », parlent les écrivains. « Mais dès que, pour une raison ou pour une autre, des plus basses aux plus hautes, vanité, cupidité, ambition, conscience de la valeur esthétique ou éthique de ce que vous exprimez, folie des grandeurs, espoir de pouvoir changer la marche de l'histoire, dès lors, l'ombre de la télévision se met à planer sur vous. »
En allant chez Pivot, chez Pivot, chez Pivot, je n'étais pas à l'aise dans ma peau. En allant chez Pivot, chez Pivot, chez Pivot, je me torturais le cerveau. Parler d'une noble cause ou mettre un corsage rose, on me dit tous les deux sans payant. Faut pas faire mégalo, faut pas faire un télo, et surtout faut pas mettre de blanc. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre, j'en deviens dingo. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre un chapeau. Si j'imitais Bardot, en protégeant les animaux, seulement j'aime mon bison et mon sac en croco, si je tricotais sur le plateau. Montrer mes parchemins, la naissance de mes seins, on me dit tous les deux sans payant. Montrez votre culture, soignez votre coiffure, et dites un mot sur l'Afghanistan. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre, j'en deviens dingo. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre un chapeau. Si j'amenais du pernaud, pour le planquer dans les lavabos. Si je parlais en argot, si je racontais des trucs porno. Suis-je assez érotique, suis-je assez authentique, on me dit tous les deux sont payants. Mais je reste muette lorsque Pivot me jette, comment s'appelle dans votre roman. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre, j'en deviens dingo. Chez Pivot, être ou ne pas être.
Chez Pivot, Marie-Paul Bell chante en 1987 cette chanson sur des paroles de Françoise Malégeris. Elles ont dû d'ailleurs bien s'amuser à les composer. On est, Yaïk Dehi, en 1987, au moment de l'apogée d'Apostrophe.
Oui, et la chanson est drôle, mais ce qu'elle dit est tout à fait vrai. C'est-à-dire que dès la fin des années 70, les éditeurs se sont mis à préparer leurs auteurs qui passaient chez Pivot, comme les hommes politiques se préparent à aller sur le plateau d'un débat télévisé.
Oui.
Et donc, on s'intéressait à la fois à ce qu'ils allaient mettre, à ce qu'ils allaient dire, à ce qu'ils n'allaient pas dire, la façon dont ils allaient se coiffer. Et on a vu dans les années 80, à la fin des années 80, c'était très net, les auteurs avaient interdiction absolue d'engager une polémique avec un autre auteur présent sur le plateau, sur la base du principe, d'ailleurs pas toujours vrai, que l'agresseur était toujours mal considéré par le public et donc ça aurait un impact négatif sur les ventes.
C'est tout à fait parallèle aux conseils que donnent les conseillers en communication, en effet, aux hommes politiques au même moment. Surtout, n'attaquez pas l'adversaire, l'auditeur, le téléspectateur n'aime pas cela.
Oui, alors on a pourtant vu chez Pivot, dans Bouillon de Culture, par exemple, Christine Angot attaquer violemment Jean-Marie Laclaftine et ses ventes ont pourtant décollé avant et après l'émission.
Donc, quand on s'intéresse à la sociologie de la littérature, à la psychologie des écrivains, il faut absolument s'attacher à considérer ces émissions de télévision, celles de Bernard Pivot en particulier. Et cela n'est qu'un aspect de la question plus générale. Est-ce que les émissions littéraires, finalement, élargissent la curiosité du public ou est-ce qu'elles sont soumises aux lois du védétariat? C'est ça qui angoisse les éditeurs et les écrivains au moment de venir. Est-ce que ces émissions vont accompagner l'essor des best-sellers ou vont permettre de faire émerger des écrivains méconnus?
Les deux analyses sont vraies et elles ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que la télévision joue le rôle d'une caisse de résonance, mais compte tenu de la place qui est faite au livre à la télévision, elle doit aussi sélectionner dans la production, alors que la radio ou la presse écrite peuvent consacrer plus de place et donc accueillir plus d'auteurs. La télévision doit sélectionner les auteurs dont elle pense qu'ils intéresseront le public, les auteurs peut-être aussi qui passeront le mieux à l'antenne, et les auteurs qui, autour d'un même thème, pourront produire le débat le plus vivant. Donc il y a tout à fait cet aspect de vedettariat. Et en même temps, Bernard Pivot pouvait aussi, et d'autres, Lecture pour tous, pouvaient aussi se permettre d'imposer, de faire découvrir un auteur. Alors évidemment, il y a cette injustice que tous les auteurs qui ne sont pas passés à la télévision ont ressenti, qui était de dire « mais pourquoi fait-on découvrir ce jeune auteur et pas moi ?» Et donc là, c'est une mission tout à fait impossible et qui a déclenché beaucoup de controverses.
Et qui concerne aussi la réflexion nécessaire sur les best-sellers. Toujours très intéressant de s'interroger sur ce qui fait qu'à un moment donné, un livre exprime assez la sensibilité ou les appétits d'un public pour pouvoir émerger. Et la question s'est posée, toujours y compris du temps de la radio, de savoir si l'audiovisuel servait les best-sellers artificiellement ou bien tout simplement était fidèle à ce que les lecteurs souhaitaient avoir. Regardez ce qui s'est passé au moment de Françoise Sagan et écoutons-la en 1954.
Nous avons maintenant devant le micro l'auteur Françoise Sagan, cette jeune romancière de 18 ans. Car en effet, Françoise Sagan, vous aviez bien 18 ans lorsque vous avez écrit ce livre.
Oui, j'avais 18 ans depuis exactement le 21 juin. C'était depuis un mois et demi.
Et maintenant, quel âge avez-vous?
Eh bien, j'ai 18 ans et demi.
Oui, on peut encore vous demander votre âge. Il m'a semblé que Bonjour Tristesse était un très joli rêve oedipien. Comme dit Calvero dans Limelight, pas besoin d'être le docteur Freud pour deviner cela.
Bien, je crois que c'est un point de vue qui est extrêmement acceptable, mais personnellement, je ne tenais pas du tout à en faire une illustration de la psychanalyse, et je verrais plutôt une histoire ordinaire, histoire simple.
Une histoire ordinaire, mais est-ce que vous entendez par là une histoire comme vous en voyez autour de vous ou comme vous avez vécu vous-même?
Ah non, pas du tout, vécu moi-même, une histoire comme j'en ai, comme il s'en passe tout le temps, je crois, sans qu'on le sache, parmi les gens.
Oui. Maintenant, je vais vous interroger un petit peu, justement, alors sur vos goûts et sur vos fréquentations, sur vos études, de manière à situer un peu le climat dans lequel a pu éclore ce roman insolite. Vous avez vos deux bachots, je crois.
Oui, j'ai eu mes deux bachots il y a un an. Un peu plus d'un an, et j'ai essayé de passer un examen à Sorbonne propédeutique, que j'ai d'ailleurs manqué brillamment à la fin de l'année. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai eu le temps cet été, au lieu de le repréparer, d'écrire.
Est-ce que vous comptez poursuivre vos études?
Non, pas du tout, non.
Non, vous préférez vous consacrer à la littérature?
Oui, beaucoup, je trouve ça beaucoup plus agréable, ça laisse beaucoup plus de temps et c'est plus distrayant.
Françoise Sagan est interrogée en 1954 dans l'émission Les Belles Lettres, au moment de l'immense succès de Bonjour Tristesse. Et on a le sentiment d'un choc de culture entre l'intervieweur et l'interviewé, Yannick Dehaye.
Oui, c'est un peu ça, et c'est ce qui explique peut-être le succès de son premier roman. L'éditeur René Julliard sait très bien ce qu'il fait en envoyant, en publiant Françoise Sagan et en l'envoyant dans les médias. C'est un personnage, c'est une jeune femme extrêmement sage d'apparence, mais qui dit à l'antenne des choses qui ne se disaient pas d'habitude. L'écriture pour elle est assez distrayante. Ça ne l'intéresse pas de continuer ses études, de travailler. On sent bien que l'intervieweur est déstabilisé par cette tranquille fraîcheur de l'auteur. Mais maintenant, si on se pose la question de savoir si c'est la télévision qui a lancé Françoise Sagan, là, je serais plus nuancé. Là, c'est à la radio. Je crois que ce n'est ni la radio ni la télévision qui lance un auteur. C'est tout simplement sa nature et son rapport aux médias. Déjà, avant la guerre, on se posait la question pour Raymond Radiguet, qui a été lancé
avant
par Bernard Grasset, avant l'audiovisuel, à l'aide d'affiches dans Paris et de placards dans les journaux.
Mais juste après la Grande Guerre. Et en effet, Grasset joue le rôle de Julliard, joue pour Radiguet le rôle de Julliard pour Françoise Sagan. Donc c'est une façon de dire qu'on n'avait pas attendu l'audiovisuel pour aboutir à ce genre de phénomène collectif d'adhésion à un ouvrage spécifique.
Oui, il y a à la fois le flair d'un éditeur qui est capable de déceler une nature chez un auteur qui va plaire au public, ou en tout cas qui va le choquer, et puis ensuite l'utilisation qu'il fait des médias à sa disposition pour faire connaître, pour transmettre cette nature.
Il demeure que la télévision, en tout cas, les émissions Lecture pour tous d'un côté, plus encore probablement celle de Bernard Pivot, contribuent à faire changer de catégorie, du point de vue de l'audience, du point de vue de la diffusion, un certain nombre d'auteurs, dans l'ordre de la fiction et dans l'ordre aussi des essais.
Oui, la télévision est une formidable caisse de résonance. C'est vrai qu'elle permet aux gens non seulement d'écouter, mais de voir les personnalités en question. Et donc, le phénomène qu'on observait déjà auparavant avec la presse ou avec la radio se trouve ici amplifié.
On peut citer des cas de personnages qui sont devenus vraiment notoires et même célèbres grâce à Pivot.
De nombreux essayistes, de nombreux professeurs d'université qui n'auraient pas eu la chance sans cela de toucher le grand public. On peut citer Georges Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie chez les historiens.
C'est la nouvelle histoire, la fameuse nouvelle histoire dans les années 70.
Ont eu une audience tout à fait inespérée qui a parfois d'ailleurs provoqué bien des jalousies chez leurs confrères.
Oui, qui a été d'ailleurs en revanche utile pour faire accepter dans le milieu des historiens l'intérêt de l'étude de l'histoire des médias. Parce que ces historiens ont découvert qu'après tout, du point de vue à la fois intellectuel et narcissique, il y avait quelque avantage à toucher un public plus large. Et ils ont trouvé que cet instrument, ces étranges lucarnes qu'ils dédaignaient tellement auparavant, après tout pouvaient avoir quelques validités, quelques légitimités et bien des avantages. Il y a les nouveaux philosophes, les fameux nouveaux philosophes qui sont également lancés, leurs adversaires disent comme des savonnettes, mais du coup un grand public est touché dans les années 70.
Oui, on a beaucoup glosé sur la question de savoir si on avait transmis une nouvelle philosophie au public ou si on avait surtout remarqué la chemise blanche de Bernard-Henri Lévy largement ouverte sur le plateau de Bernard Pivot. Il n'en reste pas moins que cette émission d'Apostrophe a fait entrer dans un maximum de chaumières un débat qui est resté limité jusqu'à présent au cercle intellectuel.
On peut citer aussi dans l'ordre de la philosophie quelqu'un qui n'était pas un nouveau philosophe, mais qui atteint un nouveau public, c'est Vladimir Yankelevitch, qui d'un seul coup multiplie par 10 le nombre de ses lecteurs.
Oui, Yankelevitch disait qu'il avait vendu plus de livres après son émission chez Pivot que pendant tout le reste de sa carrière. D'ailleurs, c'est probablement plus, le public achète probablement plus ce type d'ouvrage difficile par reconnaissance envers un auteur qui l'a charmé, qui lui a appris des choses pendant toute une soirée, que par espoir de lire et de comprendre l'ensemble de l'œuvre de cet auteur.
Ah, les esprits bougons disent qu'ils achètent, mais ils ne lisent pas. Oui, il n'empêche que finalement, par osmose, les œuvres finissent mieux par atteindre leur public. Vous pouvez citer aussi, hors d'université, hors du monde intellectuel, un personnage tout à fait topique, qui est Henri Vincenot.
Henri Vincenot, qui était un peu un chouchou de Bernard Pivot, celui-ci le dit tout à fait, et qui a connu une carrière phénoménale à la suite de ses passages à la télévision, et qui s'est aussi inscrit dans un regain d'intérêt des Français pour l'histoire régionale, pour l'histoire des différentes cultures de leur terroir.
Et puis il y a un cas qui a beaucoup frappé les esprits, c'est l'émergence de la linguistique par l'intermédiaire du professeur Claude Agège et grâce à Bernard Pivot.
Et vous savez que ce livre a été vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, alors qu'il n'était destiné qu'à quelques centaines d'érudits. N'est-ce pas vrai, monsieur Agège?
Je pense que c'est faux.
Comment c'est faux?
Ce livre était destiné à faire connaître un minimum de linguistique à un large public et il a réussi.
Oui.
Mais vous avez touché les droits d'auteur.
Hélas, modérément.
Non, c'est très bien quand même. C'était, moi, je me rappelle, j'ai souffert sans et haut pour vous lire votre livre. C'était terrible.
Faute d'attention, Bernard Pivot.
Non.
Car, en fait, certes, il a bénéficié d'une promotion qui est celle du moyen, du média, sous votre lettre débonnaire, mais il était destiné... J'ai écrit des livres bien plus techniques et bien plus difficiles à lire.
Oui, oui, d'accord, mais qui se sont vendus à quelques centaines d'exemplaires.
Ils étaient destinés à un éditeur confidentiel.
Tandis que là, il s'est vendu à combien de dizaines de milliers d'exemplaires?
Seul mon éditeur le sait.
L'interruption sur les droits d'auteur était de Raymond Devos. Il y a là une sorte de jeu de rôle entre Agège et Pivot.
Oui, on sent bien que Pivot se veut le porte-parole du spectateur. Donc il joue, il se fait plus bête qu'il n'est, et il joue le lecteur qui a du mal avec l'ouvrage. Et Agège le reprend gentiment, parce qu'il sait très bien que Pivot a réussi à lire son ouvrage avec beaucoup de plaisir, et sinon avec facilité, du moins avec fluidité.
Ce sont probablement deux clés du succès de Pivot. C'est le fait qu'il n'a pas la vergogne de vouloir à tout prix apparaître savant, qu'il accepte, quitte à forcer les choses, de se faire l'intermédiaire du téléspectateur en faisant croire qu'il ne sait pas. Et d'autre part, il écoute, c'est l'autre donnée, il écoute celui qui lui parle et il le laisse parler.
Oui, pour lui, il dit toujours que la réponse a plus d'importance que la question. Et on sent véritablement qu'il essaye, même s'il connaît déjà les réponses aux questions qu'il pose, il essaye de poser les questions qu'aurait posées le spectateur ignorant, entre guillemets, à sa place.
Quels sont les recordmen des invitations?
Alors, il y a Jean d'Ormesson, qui est probablement un des plus souvent invités, également Max Gallo, Philippe Labreau. Je crois qu'ils ont, tous les trois ont été invités une quinzaine de fois à Apostrophe. Ils ont également été invités à Bouillon de Culture par la suite. Ensuite, on peut décliner dans chacune des catégories. Jean Tullard, par exemple, chez les historiens, est intervenu très souvent. Bernard Pivot, d'ailleurs, ne se cache pas tout simplement d'inviter des gens qu'il aime bien. Et il y a aussi une vraie complicité qui s'établit. Par exemple, avec Jean d'Ormesson, dont Pivot aime à rappeler que lorsqu'il était rédacteur en chef au Figaro, il a quasiment mis Pivot à la porte.
Alors, il reste évidemment la question de savoir ce que ces émissions ont pu signifier du point de vue du marché du livre. Est-ce qu'elles ont bouleversé le marché? Est-ce que l'ensemble de l'économie de la librairie s'en est trouvé modifié?
La télévision, dans les années 70, a pris de plus en plus d'importance dans l'économie du livre. La raison principale en est que les éditeurs n'ont pas les moyens souvent de déployer une importante campagne de publicité. Donc un passage dans une émission de télévision est extrêmement important. Ajoutons d'ailleurs que la publicité reste interdite actuellement à la télévision.
Grand débat
entre les grands groupes d'édition qui souhaiteraient pouvoir promouvoir certains best-sellers et certains ouvrages de référence à gros tirage, et puis les maisons d'édition indépendantes ou les petits éditeurs qui disent si on ouvre la publicité à la télévision, cela va revenir à concentrer les budgets et les investissements des éditeurs sur un petit nombre de valeurs sûres au détriment de la recherche de nouveaux auteurs.
Alors, il se trouve précisément que cette notion de prime au plus célèbre a été importante dans le débat autour des émissions de Bernard Pivot, puisque certains lui ont fait reproche d'exercer une sorte de monopole. Après tout, on peut dire aussi qu'il avait réussi à le créer, si monopole il y avait. Il s'est toujours défendu de cette idée de monopole, mais il y a une concentration néanmoins d'importance. Évidemment, passer à Pivot ou ne pas y passer, n'est-ce pas Marie-Paul Bell, c'est essentiel pour un livre dans ces années-là. Et tout à coup, le débat émerge à l'occasion d'une controverse inattendue. On est en 1982, lorsque, sans penser à mal, dans une conférence au Québec, Régis Debray, il avait probablement oublié qu'il était filmé, se met à qualifier Apostrophe et à lui reprocher d'être d'exercer une sorte de monopole. Or, il se trouve que Régis Debray vient d'être nommé depuis peu conseiller culturel auprès du président de la République, François Mitterrand. Et Bernard Pivot prend la mouche très fort et réplique de la sorte dans son émission.
Je n'userais pas d'une sorte de droit de réponse ce soir si Régis Debray n'était pas, comme vous le savez, depuis quelques jours, conseiller à l'Élysée pour les affaires culturelles. Dans sa déclaration, trois mots sont inacceptables, c'est monopole, arbitraire et dictature. Bien évidemment, je ne jouis d'aucun monopole des livres à la télévision. Je n'ai pas le pouvoir d'interdire aux autres chaînes de faire des émissions littéraires. Et d'ailleurs, depuis bientôt 8 ans qu'existe Apostrophe, TF1 ne s'est pas privé de lancer des émissions concurrentes. J'en ai compté au moins 5. Et ce n'est pas moi qui les ai arrêtées. Ce que Régis Debray appelle mon arbitraire, c'est tout simplement, tout bonnement, la liberté de curiosité, de jugement et de parole d'un journaliste qui s'efforce chaque semaine devant les livres d'être sans parti pris et sans prévention. Et puis enfin, je n'admets pas que ce mot épouvantable de dictature qualifie ce qui, après tout, n'est que le libre choix des téléspectateurs et des amateurs de lecture. Il n'est pas bon qu'un philosophe, intellectuel de gauche et conseiller à l'Élysée croit que le public est une chose molle et facilement influençable. Et puis enfin, il n'était pas très habile, à mon avis, de laisser entendre que la prochaine émission littéraire de TF1 se concocte sous le regard protecteur et intéressé du pouvoir.
Pour être juste et équilibré, il faut faire entendre les propos de Régis Debray lui-même, qui s'était expliqué sur cette intervention dès avant la réplique de Pivot.
Je suis ici au Québec en voyage privé, en tant qu'écrivain. Je prononce une conférence d'une demi-heure devant l'Union des écrivains québécois, où il n'est absolument pas question, bien entendu, de la télévision française et encore moins d'Apostrophe. L'un de mes interlocuteurs me dit Ici, notre grande préoccupation, c'est de faire connaître la littérature québécoise en France. Alors, on parle jamais de nous dans les émissions. Et je reprends simplement les termes de mon interlocuteur et d'autres interlocuteurs parlant d'une sorte de concentration en France des moyens de diffusion et de critique de la littérature. Non seulement je ne mets pas en cause la qualité de l'émission d'Apostrophe, qui est bien connue au Québec, et je considère que c'est une excellente émission. Je souhaite seulement qu'il y en ait plusieurs du même type et de la même qualité. Donc je souhaite longue vie à Bernard Pivot dans son admirable travail, et je souhaite qu'il y ait beaucoup de Bernard Pivot sur beaucoup de chaînes de télévision en France.
Qu'est-ce que nous apprend cette controverse, Yannick Dehé ?
Elle nous apprend d'abord que, à l'époque, l'émission de Bernard Pivot a atteint un statut quasiment sacré. C'est-à-dire qu'on ne peut plus admettre que l'on critique publiquement Bernard Pivot. Et c'est à un point tel que, d'ailleurs, aucun des responsables de chaîne d'Antenne 2 qui se sont succédés de 75 à 90 n'a imaginé toucher ne serait-ce que d'un cheveu, modifier la durée de l'émission, modifier son heure de programmation. On ne pouvait tout simplement pas toucher cette émission qui était devenue une institution. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que sans le savoir, Régis Debray, par son propos maladroit, son propos initial, a favorisé la longévité de cette émission, puisque lorsqu'il s'exprime, Bernard Pivot se sentait un petit peu las de cette émission et avait décidé d'arrêter à la fin de la saison. Et donc, à la suite de cette polémique où il a lui-même fort vivement réagi, il a décidé de continuer l'émission. Donc, sans le savoir, Régis Debray a permis à l'émission de continuer. Et pour finir, je remarque que quelques années plus tard, Bernard Pivot a eu l'élégance ou la perversité, ou les deux à la fois, de réinviter Régis Debray dans son émission et que donc, évidemment, il y a certainement pris très grand plaisir.
Et Régis Debray a eu l'élégance ou le courage de répondre à cette invitation.
L'influence de ces émissions est évidemment beaucoup plus grande que celle des émissions de radio à l'époque où c'est la TSF qui domine. Mais en même temps, elle va décliner à partir des années 90. Je crois qu'il faut s'interroger aussi sur le déclin de cette influence. Il y a peut-être des raisons qui sont simplement de programmation, le fait de mettre Bouillon de Culture de façon vraiment inexcusable, beaucoup plus tard que n'était Apostrophe dans la soirée. Mais il y a d'autres motifs, Yannick Dehé.
Oui, d'abord, l'émission Bouillon de Culture elle-même a évolué dans sa formule. Donc, elle a commencé par dérouter les vieux fidèles d'Apostrophe en multipliant les regards et les curiosités. Ensuite, l'horaire a été modifié, l'horaire et la journée de programmation a été modifiée plusieurs fois. Et enfin, il faut probablement reconnaître que cette émission répondait parfaitement à ce qu'attendait une certaine frange du public dans les années 70 et 80, et que dans les années 90, à une époque de multiplication des chaînes, multiplication des chaînes thématiques, multiplication des émissions plus spécialisées, eh bien une émission généraliste avait plus de mal à trouver sa place, à s'imposer, et aussi face à la concurrence de l'ensemble des médias, à proposer un regard neuf et original sur l'actualité littéraire.
C'est le moment où on voit ressurgir des formes différentes d'émissions littéraires en particulier, avec le désir de réintroduire le lecteur dans le jeu, de constituer une espèce de triangle. Celui qui interroge, le passeur, l'écrivain et le lecteur. C'est l'effort de Pierre Dumayet, par exemple.
C'est l'effort de Pierre Dumayet qui sera d'une certaine façon repris plus récemment par Frédéric Fernet dans Droit d'auteur, puisqu'il demande à la fois à l'auteur de venir sur le plateau et à un écrivain, certes un petit peu célèbre, mais n'ayant a priori rien à voir avec l'ouvrage qui est présenté, de venir.
Et donc, un écrivain ou une personnalité qui n'est pas d'ailleurs de la littérature, qui se fait le lecteur du livre représenté par son auteur.
Effectivement, on a même vu des chefs d'entreprise venir parler du livre d'un auteur qu'il n'aurait certainement pas lu sans la sollicitation de l'émission.
Et puis, il faut aussi évoquer cette grande encyclopédie que constitue le siècle des écrivains. Et là, on revient à des émissions apparemment plus traditionnelles, à des documentaires qui s'efforcent, de façon variée, suivant le goût et le talent et la personnalité des auteurs, mais qui s'efforcent de replacer l'écrivain dans son temps, avec des documents, des citations, des films de toutes sortes.
Il y avait une ambition assez considérable de Bernard Rapp sur ce projet, qui était de proposer 100 documentaires autour de 100 écrivains importants du XXe siècle, tout en faisant appel à une diversité d'auteurs, de documentaristes, de points de vue, de traitements. Et donc cette série a tenu le pari à la fois de constituer une encyclopédie vivante de la mémoire littéraire du XXe siècle, tout en offrant des regards très différents les uns des autres. Et je crois que c'est une émission qui sera encore revue et conservée dans de nombreuses années.
Quand on a étudié cette histoire, quand on a évoqué son développement, on ne peut pas ne pas s'interroger sur l'éventuelle spécificité française à cet égard. Beaucoup d'étrangers, voyant notre télévision, en tout cas au moment de l'acmé d'apostrophe et de bouillon de culture, disaient « ce n'est guère concevable chez nous, il y a vraiment une originalité française ». Est-ce que cette originalité-là, ce poids, cette présence des émissions, notamment de Bernard Pivot, mais des autres, la diversité de l'offre, parle pour une originalité de notre pays?
Certainement. Je crois qu'il y a une dimension politique dans cette multiplicité d'émissions littéraires à la radio et à la télévision. C'est-à-dire que chaque patron de chaîne se doit d'afficher une offre copieuse en matière de livres. C'est une spécificité aussi bien française. On sait que les hommes politiques eux-mêmes, qui prétendent à un destin national, se doivent de passer dans une émission littéraire, soit pour venir parler de leur goût, comme ce fut le cas de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand chez Bernard Pivot.
Raymond Barre aussi.
Raymond Barre également, et bien d'autres. Soit pour venir présenter le fruit de leur propre travail, de leur réflexion.
De leur roman, éventuellement.
De leur roman, de leur biographie historique. Donc il y a véritablement une coquetterie, une dimension littéraire du personnage de l'homme politique en France.
Il y a deux interprétations. On peut être ironique. On peut dire aussi qu'après tout, l'hommage ainsi rendu par le personnel politique au goût qu'ont les électeurs pour les choses de l'esprit, c'est un hommage qui est de bon augure.
Oui, et je crois qu'il y a là effectivement une spécificité française. On a vu dans les années 90 se multiplier les délégations de différents pays qui venaient visiter Bernard Pivot. Pour essayer de comprendre comment une émission littéraire peut atteindre un tel succès, un tel prestige. Et ils sont repartis évidemment bredouilles, puisqu'il n'y a pas de formule magique. Il y a tout simplement un ensemble d'invités autour d'une table et un animateur. Simplement, il y a probablement la conjonction d'une personnalité qui correspond particulièrement aux attentes du public, d'un travail acharné, d'un amour des livres, et puis de choix probablement judicieux qui ont été faits avec l'ensemble des invités. Mais il n'y a pas à proprement parler de formule magique qui permettrait à une émission d'être aussi réussie. Et c'est pour cela que dans les pays étrangers, aux États-Unis par exemple, l'offre d'émissions littéraires est beaucoup plus restreinte.
Il y a peut-être une place de l'intellectuel et de l'écrivain dans l'opinion publique depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles en France, que d'autres pays ne connaissent pas.
Oui, ça aussi, c'est une spécificité française. L'intellectuel est né en France et l'intellectuel, même dans un autre pays, aime venir en France dans une émission littéraire parce qu'il sait qu'il sera reçu avec beaucoup de bienveillance, qu'il pourra s'y exprimer. Si en plus il parle français, alors il a de grandes chances de conquérir le public et les ventes.
On peut espérer, Yannick Dehaye, que cette spécificité française durera. Je voudrais donner quelques indications sur les livres qui nous ont servi à préparer cette émission. Et naturellement, à tout seigneur, tout honneur, celui de Bernard Pivot qui s'appelle « Le métier de lire ». C'est un dialogue avec Pierre Nora, sous titre d'apostrophe à bouillon de culture. Un livre qui vient de reparaître, complété et mis à jour en livre de poche chez Gallimard. Les deux autres grands hommes de cette histoire, ce sont Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet. Du premier, hors antenne, c'était des entretiens avec Annick Peignet-Julie et Marion Scali, qui avait été publié au Quai Voltaire en 1992, toujours disponible, et de Pierre Dumayet, plus récent, le livre qui s'appelle « Autobiographie d'un lecteur », paru chez Pauvert en 2000. C'était Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet, avec Agnès Chauveau, réalisation Patrick Molinier, prise de son Monique Burguière, documentation Vanina Profisi, Yaël Mandelbaum et pour les archivinas, Florence D'Artois.
Cette émission a été diffusée la première fois le 29 septembre 2001 sur France Culture.